lundi 31 juillet 2023, bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Au micro, je suis Rafika Taher. Au sommaire, le gel des avoirs du Niger est une des mesures prises par la CEDEAO hier à l'issue du sommet de l'organisation à Abuja. À suivre son explication et aussi ses conséquences pour le pays. La mise en œuvre d'un dispositif de collecte de données sur la transhumance au centre d'une réunion à Gaya. Plus de précisions dans le journal avec un membre de l'association AREN. Et le magazine de ce soir va porter sur l'infraction de recel et les sanctions encourues. Bonsoir à tous. Dans un communiqué publié ce jour, le PNDS Tareya dénonce l'arrestation de plusieurs membres du parti. Selon le communiqué, Fouma Koïgado, Mahamman Sani Mahamadou Di Abba, Madame Hussein Hadiza Dita, Madame Ogé, ministre des Mines, ont été mis aux arrêts. Des arrestations intervenues avant les interpellations de Hamma Adamou Souley, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, du ministre des Transports Oumarou Malam Alma et du député Kalam Moutari souligne le dit communiqué. Plusieurs manifestations ont secoué les rues de Niamey après l'annonce de la prise du pouvoir par le CNSP, ce qui a donné lieu à des débordements et des actes de violence qui ont engendré des dégâts matériels. En parallèle, les réseaux sociaux ont été le terrain fertile de la désinformation, exacerbant les tensions et mettant en danger la stabilité sociale. Face à cette situation, le CNSP a publié un communiqué appelant au respect de la loi relative à la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Le gel des avoirs est l'une des sanctions prises à l'encontre du Niger hier par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suite au coup d'État militaire intervenu le 26 juillet. L'économiste nigérien Soli Abdoulaye l'a expliqué. Pour lui, c'est une mesure aux lourdes conséquences, mais le pays a des possibilités de s'adapter. Il est au micro de Assouma Nachina.
Le gel des avoirs du pays à l'extérieur, ça veut dire qu'on empêche le pays d'importer dorénavant tout ce dont il importe auparavant. Quand vous avez besoin de produits pharmaceutiques, de produits médicaux, vous ne pouvez pas importer. Quand vous avez besoin d'importer du matériel agricole, vous ne pouvez pas importer parce que vous n'avez pas de l'argent. L'argent que vous avez est gelé. Du point de vue, donc même des activités commerciales que le Niger aura à faire à l'interne, il va avoir quelques soucis. Aux nouvelles situations, il faut de nouvelles mesures. Quel que soit Alpha, on va ressentir. Mais on peut être résilient. C'est-à-dire, on peut s'adapter. Et s'adapter, ça ne veut pas dire que vous allez être là pour regarder. Non, vous allez réfléchir pour voir comment vous pouvez contourner. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons de l'uranium. En cherchant à nationaliser notre industrie d'uranium, on peut trouver de l'argent avec beaucoup de partenaires. Moi, je pense que tout dépend du comportement vraiment des dirigeants actuels qui sont venus au pouvoir.
De retour au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger, le président de la transition tchadienne, le général Mahamad Idriss Déby Itno, a effectué hier dimanche une visite à Niamey. Selon son compte Twitter, il a eu des échanges approfondis avec les leaders du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général Abdrahmane Tchani, avec le président Mohamed Bazoum, ainsi qu'avec l'ancien président Mahamadou Issoufou dans une approche fraternelle qui vise à explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin. Quelques jours après la prise du pouvoir par le CNSP au Niger, plusieurs médias de Niamey ont apporté quelques changements au niveau de leur programme pour s'adapter à l'évolution des événements. C'est le constat fait par notre équipe ce matin, suivant quelques rédacteurs en chef des groupes de presse de Niamey interrogés par Nafis Adam.
Au niveau de Canal 3 Niger, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, justement, nous nous sommes réorganisés au niveau du programme et au niveau de la rédaction. Nous avons installé des équipes qui sont en permanence en alerte par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain de reportage, mais également pour suivre le fil des différents communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Le programme a été réadapté
au niveau de d'Alternative Rien n'a changé. Parce que, en fait, c'est une radio citoyenne. C'est une radio qui a proximité avec la population. Donc, nous, notre programme reste tel. Nous prenons l'information nécessaire au vu du contexte et nous diffusons ce qu'on est censé diffuser.
Bonsoiré a une grande partie de son programme qui est consacrée à la sensibilisation à travers des émissions religieuses. On a essayé d'attirer l'attention notamment des animateurs. Le message qu'on a partagé avec ces oulémas, c'est vraiment celui d'appeler les populations au calme, de prêcher sur des thèmes en lien avec la cohésion sociale, en lien avec l'unité nationale. Pour le reste du programme, vraiment on suit l'évolution de l'actualité.
Autre actualité avec la prise du pouvoir par le CNSP au Niger, une série de mesures a été prise, dont la fermeture des frontières terrestres. Cette décision a entraîné le stationnement de nombreux camions gros porteurs près de la frontière à Gaya-Malanville. Boubacar Sambo, secrétaire général du syndicat des conducteurs de gros porteurs de Gaya, reste optimiste face à la situation et appelle ses collègues à faire preuve de patience. Il est au micro de Fadel Alou.
Vraiment, la situation est compliquée. Mais comme c'est une décision qui nous vient des autorités, donc nous, transporteurs et même les commerçants, doivent patienter jusqu'à l'ouverture des frontières. Ces frontières ont été ouvertes pour un bref moment, mais refermées encore. Sinon, les chauffeurs sont habitués à cette situation. Ils passent souvent 4 à 7 jours avant d'acheminer les marchandises. Et vous savez, dans chaque pays, en temps de crise, lorsque les frontières sont fermées, c'est la même situation qui prévaut. La douane ne travaille pas, aucun mouvement. On doit juste patienter jusqu'à l'ouverture des frontières.
Échanger avec les acteurs de la transhumance dans le département de Gaya, l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger Arène de Dosso, en partenariat avec la FAO, a organisé un atelier. L'objectif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'élément central qu'est l'élaboration de la cartographie des ressources selon Maoudé Moussa, facilitateur et membre de l'Arène. Il est au micro de Balkis Sidi Ahmed.
C'est pour échanger avec les acteurs dans le cadre de la mise en œuvre d'un dispositif de collecte dénommé TTT, Transhumance Tracking Tools. C'est un dispositif qui permet de collecter des informations, de les analyser et les diffuser à une grande échelle pour permettre aux décideurs d'intervenir. Aujourd'hui, c'est vraiment les activités préalables, l'élaboration de la cartographie des ressources. Et c'est en lien avec cette cartographie que j'ai dit, on va essayer de placer les sentinelles qui vont nous permettre de relayer l'information. Et vous avez vu la diversité des acteurs qu'on a réunis. Il y a les leaders des éleveurs, il y a les services techniques, il y a les autorités communales même, parce qu'à Gaya, on précise que le projet que nous sommes en train de mettre en place va concerner la commune de Gaya, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et la commune de Tanda, sur laquelle on va évoluer, Inch'Allah. La FAO, elle est présente déjà dans le département de Gaya. Nous avons été sollicités pour mettre en œuvre cet outil-là dans le cadre de la transhumance.
La Commission nationale des droits humains a organisé le 26 juillet un atelier de renforcement du dispositif de promotion et de protection des droits humains à Maradi. Cette rencontre s'est penchée sur la vulgarisation des textes de la Convention des droits des personnes handicapées. Habibou Mariama, directrice centrale chargée de la promotion à la CNDH, indique qu'il s'agit d'amener les décideurs communaux à prendre en compte les droits de ces personnes handicapées dans les politiques de développement. Elle est au micro de Mohamed Maman.
La Commission nationale elle-même, elle a pour mission la promotion et la protection des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. Donc ces personnes handicapées font partie donc, c'est une frange de notre population. C'est pourquoi la Commission ne les a pas laissés de côté. L'objectif global de cette activité est de faire une promotion de leurs droits à travers la vulgarisation du droit qui est relatif à ces personnes. Le plus important même, c'est d'amener donc ces autorités-là qu'on a invitées, donc c'est de les amener à prendre en contre les personnes handicapées dans l'élaboration de leurs plans communaux de développement. Les personnes handicapées à travers les fédérations sont en train de faire de leur mieux pour vraiment amener et les populations et l'État à prendre en compte cette frange de notre population. Je pense que déjà à travers l'organisation qui sont données, cette fédération-là, ils sont en train donc de prendre en charge leurs droits en se battant.
Le foncier est un sujet crucial de la région de Dosso où les tensions autour de la terre peuvent parfois dégénérer en conflit. Samedi, le cadre de concertation de la chaîne pénale de Dosso a organisé à Gaya une sensibilisation sur l'importance de la prévention des conflits liés au foncier à l'intention des chefs de village et de quartier du département. Plus de précisions avec Ould Ahmed, membre du cadre de concertation de la chaîne pénale de Dosso, au micro de Fadel Allou.
Lors des différentes discussions au niveau de ce cadre de concertation, un certain nombre de problèmes ont été identifiés dans toute la région de Dosso. Mais principalement en ce qui concerne le département de Gaya, ce qui a été constaté de par les différents jugements criminels qui ont eu lieu depuis les années 2020 jusqu'à ce jour, la plupart des faits criminels ont toujours à leur base un conflit foncier rural. Et c'est pour ça que le comité de coordination de la chaîne pénale et le cadre de concertation avaient jugé utile d'identifier ces problèmes, créer une mission de sensibilisation avec les différentes autorités coutumières et départementales afin d'éviter qu'il y ait des faits criminels tels que nous l'avons constaté de par les audiences, comme je le disais, des chambres criminelles, des faits de meurtre ou de CBV qui sont toujours liés à des conflits champêtres ou ruraux.
Le recel est une infraction prévue et punie par la loi pénale nigérienne. Cet acte qui consiste à détenir sciemment un bien issu d'une infraction fait l'objet d'une pénalité judiciaire. Oumarou Mahamman Bilal, substitut du procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez, explique au micro d'Anissé Karim dans la partie magazine.
Le recel, au sens juridique du terme, c'est le fait de détenir sciemment, à quelque titre que ce soit, un bien issu d'une infraction. Ça peut être détenir le bien en dépôt, ça peut être l'achat du bien sachant qu'il résulte d'une infraction. Donc, ça peut être une autre forme de garde du bien issu d'une infraction. Par infraction, il faut entendre crime ou délit. Donc, c'est en ce sens que l'article 354 du Code pénal prévoit que le recel est le fait de détenir sciemment à un titre quelconque des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.
Quels sont les éléments constitutifs d'un recel?
La détention en connaissance de cause, donc détenir sciemment. Étant entendu que le code a effectivement prévu deux catégories de recel, il est opportun de préciser que la définition du recel au sens de l'article 354 ne sait pas pour autant s'agissant du recel de malfaiteur qui est la seconde catégorie de recel prévue ici par le code pénal nigérien. Il s'agit de recel de malfaiteur, comme on l'a dit. Donc, en ce sens, la définition est différente de celle du recel stricto sensus et il est défini par l'article 205 du code pénal comme suit. On dit ceux qui, connaissant les agissements des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, donc seront punis comme les auteurs. Vous voyez ici, on parle de recel de personnes, auteurs d'infractions. Le point commun entre les deux formes de recel, c'est la connaissance de cause.
Dans ce cas de figure, quelles sont les peines prévues?
Pour ce qui est du premier cas de recel, l'article 354, bien sûr, du code pénal, il prévoit que le receleur sera puni d'un emprisonnement de 1 à moins de 10 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. Maintenant, pour ce qui est du recel des malfaiteurs, les sanctions sont essentiellement prévues aussi à l'article 206 du Code pénal qui prévoit que ceux qui auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient recherchée par la justice ou qui l'auront soustraite ou tenté de la soustraire à l'arrestation ou aux recherches ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute pour nos éditions en langue nationale. Et à 18h15, écoutez le Forum Hausa avec pour thème « Fête de Bianou, comment préserver cette tradition » dans une présentation de Moussa Maman. Vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.